18h30 à Paris, je vous laisse en compagnie de Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
Bonsoir Marion, merci à vous, bienvenue à tous. Allez, dans 30 minutes, RFI Soir, le grand journal, d'abord présenté par Simon Bourtembourg, puis nous retracerons le parcours judiciaire de Stanis Boujakera, le journaliste de RDC, qui a été libéré la nuit dernière de la prison centrale de Kinshasa, et cela au lendemain de sa condamnation à 6 mois de prison, peine donc qu'il venait tout juste d'effectuer. Avec Philippe Gély de la rédaction du Figaro, l'actualité économique en France, où il est beaucoup question en ce moment de dettes et de déficits, et de comment faire face à ces dettes et à ces déficits, et alors que demain au Sénat est prévu un vote, et on en parlera également avec Philippe Gély, vote sur le très sensible sujet du CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. 19h30, dans une heure, Afrique Soir, la première édition, ce sera avec Sylvie Berruet. Mais pour le moment, l'heure est au débat.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Demain, jeudi, s'ouvre un sommet de l'Union européenne à Bruxelles. Il s'agira de la troisième réunion de haut rang de la semaine dans le monde, après le sommet pour la démocratie qui a eu lieu lundi à Séoul et le sommet sur l'énergie nucléaire qui est également prévu demain jeudi. À quoi servent ces grands messes? Notre question ce soir, la diplomatie des sommets est-elle utile? Y a-t-il un décalage entre leur nombre et les décisions qui découlent de ces réunions? Est-ce que cette forme de diplomatie est toujours adaptée à nos temps actuels? Est-ce qu'elle doit évoluer? Dans quelle direction? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Michel Fouché, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe, ancien ambassadeur dans les Pays-Baltes, auteur de nombreux ouvrages, je vais citer notamment « Arpenter le monde, mémoire d'un géographe politique ». Face à vous, Charles Tenenbaum, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Lille, chercheur au CERAPS, Université de Lille, et spécialiste des questions de médiation internationale. Et je vais citer l'un de vos ouvrages qui est complètement dans notre débat. Une diplomatie globale, conférences et sommets mondiaux. Notre troisième invité est en ligne avec nous. Bonsoir, Raoul Delcorte.
Bonsoir.
En ligne depuis Bruxelles, ambassadeur honoraire de Belgique, membre de l'Académie royale de Belgique, professeur de sciences politiques à l'Université de Louvain, auteur notamment de, ça aussi c'est dans notre débat, la diplomatie d'hier à demain. On va évoquer évidemment les pistes pour faire évoluer la diplomatie mondiale. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté cette invitation du débat du jour sur RFI. Première question, je m'adresse à vous, Michel Fouché, ancien ambassadeur dans les Pays-Baltes. Vous avez participé à de nombreuses grandes réunions, des sommets, puisque c'est le dont on parle, ces sommets. Qu'est-ce qui se passe au cours de ces sommets? Comment ça se déroule?
Ah, c'est très, très préparé en amont. Et mieux c'est préparé, mieux ça se passe. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Alors moi, je me souviens du sommet de Paris en 1990. Il y avait Bush, Gorbatchev, Mitterrand, Kohl, Thatcher. Sortir de Yalta pacifiquement. Bon, après, Gorbatchev n'est plus là, il y a des aléas. Donc la préparation est très importante. Alors après, à quoi ça sert? Je dirais, il y a plusieurs...
On n'est pas encore sur à quoi ça sert. Est-ce que jamais que vous nous emmeniez dans un sommet?
Oui, non, mais c'est...
C'est préparé en amont, mais qu'est-ce qui est préparé en amont et qu'est-ce qui se passe sur place?
C'est évidemment les décisions... dans le sommet de Paris de 90, c'était essentiellement sortir pacifiquement de la guerre froide, c'est-à-dire en fait, c'était des accords de désarmement entre les Américains et les Soviétiques. Et pour la puissance invitante qu'était la France, il y avait un enjeu sous-jacent. Dans les sommets, il y a beaucoup d'enjeux sous-jacents qui ne sont pas publics.
Qui ne sont pas à l'ordre du jour.
Qui ne sont pas directement à l'ordre du jour. Alors, le sommet de Paris, je ne devrais pas vendre la mèche, ça servait au président Mitterrand à faire en sorte que l'après-guerre froide ne se décide pas exclusivement entre Washington, Bonn et Moscou. Il s'agissait de rester dans le jeu. Et c'est pour ça que ce sommet a été préparé. Et la géographie des sommets est très importante. Ça se passe où? Quelle est la puissance invitante? Quel est le message de la puissance invitante? Là, c'était clairement, la France ne veut pas être sortie du monde d'après Yalta. C'était le but, comme on dit chez les militaires, c'était l'objectif final recherché. Pour la France. Pour les Américains, il s'agissait en gros de faire comprendre à Gorbatchev qu'il avait perdu la guerre froide, ce qui n'était pas très agréable parce qu'il l'a payé après. Et pour les Allemands, il s'agissait de faire endosser la réunification. Vous voyez, donc en fait... Il y a une déclaration finale, mais chaque puissance, parce que c'est une affaire de... On parle de sommet, c'est préparé par des Sherpas, donc il faut grimper, très non pas des montagnes de papier, mais il faut déblayer les difficultés en amont, encore une fois. Au fond, un bon sommet, c'est quand chaque partie prenante, influente, il trouve son compte.
Mais là, vous faites référence à un sommet qui a eu lieu il y a plus de 35 ans.
Oui, déjà,
est-ce que ça a évolué? Et deuxièmement, vous faites référence à un sommet crucial pour toutes les parties prenantes.
Alors, pour l'Union européenne,
est-ce que tous les sommets aujourd'hui sont aussi cruciaux?
Je ne parlerai pas de sommet pour l'Union européenne quand c'est des réunions internes. On parle de Conseil européen ou de Conseil des ministres.
Il y a un terme galvaudé alors dans le sommet.
Oui, il ne faut pas l'utiliser. On ne parle pas de ça d'ailleurs à Bruxelles, enfin pour l'Union européenne en tout cas, sauf quand il s'agit d'un sommet avec la Chine. Il y en a eu un il n'y a pas tellement longtemps, parce que là, il y avait des enjeux commerciaux, par exemple. À chaque fois, il y a des enjeux très très précis, et puis il y a ce qui se passe autour. Et puis il y a les aléas. Vous avez un agenda très bien préparé, et puis la veille, il y a un attentat, ou il y a une guerre, ou il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est la grande difficulté de la diplomatie, c'est de préparer un ordre du jour et d'être prêt à traiter d'autres questions. Moi, c'est mon message aux différents ministres que j'ai accompagnés pour les réunions européennes, par exemple. Alors, je peux vous donner des exemples, mais bon, on sort du sujet.
On en viendra.
Voilà. Sarkozy, président de l'Union européenne, vous allez voir ce que vous allez voir. Guerre en Géorgie, crise financière et référendum négatif en Irlande. Tony Blair avant lui, 2004, vous allez voir ce que vous allez voir. La nouvelle pensée sociale européenne, le leadership britannique. 1er juillet, beau discours. 7 juillet, double attentat à Londres, 160 morts. C'est ça aussi la diplomatie, c'est d'être prêt à gérer ce qui n'est pas prévisible.
Charles Tenenbaum, vous qui êtes l'auteur d'une diplomatie globale, conférences et sommets mondiaux, est-ce qu'il y a une banalisation aujourd'hui en 2024 du mot sommet et une banalisation qui desservirait la diplomatie?
Cette question des sommets, qui est des sommets diplomatiques, disons de ces réunions dont il est question au plus haut niveau de la décision politique et qui rassemble notamment les chefs d'État, savoir si elle dessert la diplomatie, c'est en fait un vieux débat sur une pratique diplomatique qui a été longtemps discutée, parfois questionnée, remise en cause par les diplomates eux-mêmes. C'est ce que fait un diplomate britannique à la sortie des négociations du traité de Versailles et de la conférence de paix de Versailles dans un ouvrage qu'il publie quelques années plus tard sous le nom de « Faire la paix », où il dit finalement qu'il n'y a rien de plus fatal à la pratique de la diplomatie que ces manières pernicieuses et ces habitudes mauvaise mais malgré tout persistante d'établir des liens d'amitié entre les chefs d'État au cours de grandes rencontres internationales. Alors ça c'est finalement un vieux débat parce qu'après tout aujourd'hui qu'on le voyait à l'instant parmi les nombreux exemples qui ont déjà été mentionnés, c'est une pratique qui a évolué, une pratique qui a proliféré aussi. Il y a finalement au cours du XXe siècle et puis depuis la fin de la guerre froide, on voit une multiplication de ces sommets diplomatiques au plus haut niveau. À l'instant, par exemple, le cas de la gestion de la médiation, disons, du président Sarkozy avec son Sherpa à l'époque, Jean-David Lévite, sur la guerre en Géorgie à l'été 2008, est un bon exemple de rencontre au sommet. C'est une forme de diplomatie au sommet, véritablement entendue comme une diplomatie de gestion de crise. Et c'est aussi ce qui est à l'origine, finalement, de cette diplomatie des clubs, qui est illustrée très bien par les réunions du G7. D'ailleurs, c'est le 50e anniversaire 2024, des premières réunions à l'époque du G4, en 1974, qui se réunissaient face à la crise économique suscitée par la crise pétrolière, d'abord dans la bibliothèque de la Maison-Blanche. On les appelait le club des bibliothèques. Et cette pratique a évolué ensuite.
Alors, mais en quoi elle a évolué?
Persisté.
En quoi elle a évolué? Parce que cette diplomatie des clubs, elle est tout autant aujourd'hui ?
Alors, elle existe tout autant. Alors, le G4 qui est devenu G7, puis G8, et puis... Alors, il y a d'abord cette diplomatie des clubs, quand elle se joue entre acteurs très restreints, parfois les acteurs les plus puissants, ou directement concernés par une gestion de crise, quand il s'agit de gestion de crise, eh bien, elle a pris différentes formes. On parle aujourd'hui, je ne sais pas, du format Normandie, tel qu'il a été mis en place pour, à l'époque, tenter d'engager des négociations déjà sur la question de l'Ukraine, lors des commémorations du débarquement américain. Et puis, parfois, elle s'est élargie, hein, quand on parle du G7, G8, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a aussi le G20, qui est une forme, qui est une manière de conserver cette stratégie du club diplomatique, tout en élargissant la participation des acteurs. Et puis, la pratique de la négociation exclusive, hein, les plus puissants, ceux qui vont pouvoir prendre des décisions ou faire des déclarations qui auront véritablement un impact sur la scène internationale, eh bien, a ressenti parfois aussi le besoin de s'ouvrir à des acteurs extérieurs, d'avoir des rencontres, des auditions avec des acteurs de la société civile qui n'auraient pas leur place. Voilà. Mm. Par exemple, ce qu'on appelle les rencontres de type formule ARIA dans le Cénacle des Nations Unies, où le Conseil de sécurité peut s'ouvrir parfois des acteurs de non diplomatiques pour les auditionner.
Mais vous trouvez que société civile, même ONG par exemple, en tout cas hors dirigeants, ont beaucoup leur place dans les sommets internationaux aujourd'hui ?
Alors c'est là ce qui oppose effectivement, et ce que j'avais fait dans cette publication, ce qui oppose la diplomatie de club, celle du G7, du G20, celle des réunions restreintes au plus haut niveau, et la diplomatie des grandes conférences globales, notamment celle des Nations Unies, sur des questions sociales, sur des questions qui sont aussi des sujets, des questions qui font les crises d'aujourd'hui, environnementales, les questions sanitaires, le changement climatique, donnent lieu alors là à des conférences globales qui s'opposent à la diplomatie exclusive, à la diplomatie de club, par leur côté diplomatie, démocratisation de diplomatie, ouverture à la société civile. Donc on peut opposer en fait ces deux types de modèles qui coexistent tout en s'opposant.
À la COP28 à Abu Dhabi sur le climat, il y avait 70 000 participants. Voilà, c'était la société civile. Mmh. C'est pas seulement les ministres de l'énergie et du climat.
Mais hors COP, est-ce que vous connaissez beaucoup de sommets
où Non, mais là c'est parce que c'est un sujet, pour aller dans le sens de ce que dit Charles Tenenbaum, c'est un sujet là qui mobilise la société civile. À la différence
et les ONG.
D'autres sommets beaucoup plus traditionnels, en quelque sorte.
Raoul Delcort, ambassadeur honoraire de Belgique depuis Bruxelles, est-ce que vous diriez, vous, quel regard vous avez là-dessus ? Est-ce que vous diriez que la diplomatie des sommets, elle est adaptée aujourd'hui à notre temps actuel, aux crises qui traversent le monde ?
Moi, je crois qu'aujourd'hui, vraiment, les sommets font partie de la routine, en fait, des affaires internationales. Et il y a seule une situation grave interne pourrait empêcher un dirigeant de s'y rendre. Mmh. Donc c'est vraiment un phénomène qui a connu une accélération dans l'après-guerre froide. Et ce qui est intéressant, c'est que les sommets engendrent des sommets. C'est-à-dire que, au sens où l'organisation d'un sommet obéit en général à un système de rotation, comme les COP, et qu'un État y fait rarement défaut, sauf exception, comme bon, on se souvient peut-être qu'en décembre 2019, le Chili a renoncé à organiser un sommet, pour le coup, la COP25, parce que bon, il y avait des problèmes internes qui faisaient que ce n'était pas possible. Alors, ce que je voulais ajouter, c'est que certaines organisations ont délibérément introduit la tenue des sommets dans leur agenda, en fait, pour accroître dans leur visibilité. Le sommet de l'OTAN, tout le monde en parle. Mais quand je vous parle du sommet de l'OSCE, de l'Organisation de la Sécurité et de la Coopération en Europe, c'est déjà moins connu. Et si je devais évoquer le Conseil de coopération du Golfe, on se dit qu'en réalité, en plus, qui est divisé, on se dit qu'un sommet, là, pour le coup, c'est un coup de projecteur sur une organisation qui, sinon, aurait du mal à rayonner. Mm. Et donc ça, on peut le déplorer, on peut qu'il y ait une inflation de sommets, mais à tout le moins, c'est devenu aujourd'hui un élément presque indispensable des relations internationales.
Élément indispensable, mais routine, Michel Fouché a dit, Raoul Delcort, c'est une routine, c'est un passage obligé pour les dirigeants.
Ce qui est frappant, si vous voulez, par exemple, l'OSCE qui vient d'être cité, ne fonctionne plus. Le sommet de l'OTAN à Washington cet été va être très très compliqué parce que Biden va dire non à l'Ukraine. Et c'est pas correct de dire ça, mais on peut pas faire autrement.
Il y a des choses qui vont être dites.
Et en même temps, le sommet, si vous voulez, ça permet aussi des rencontres bilatérales. Le très bon exemple, c'est le sommet c'est des choses que je suis de près en Asie du Sud-Est, le sommet de l'ASEAN, enfin de l'ANAS, de l'Association des Nations du Sud-Est, à Jakarta, très très bien organisé par les Indonésiens. Ben là, il y a eu des rencontres, une rencontre entre Xi et Biden. Ils se sont vus enfin depuis 3 ans. C'est très utile, le côté face à face. Et puis, il y a encore 2 choses que je voudrais citer. Puisque nous sommes à RFI, le 17 février 2024, à Addis Abeba, le président de l'Union africaine, grand diplomate tchadien, Moussa Faki, a fait son discours devant la commission, les représentants de la commission de l'Union africaine. Il a bien sûr décrit la situation internationale et l'impact de crise extérieure à l'Afrique sur l'Afrique. Il a rendu hommage à l'action de l'Afrique du Sud, à la CIJ, à la Cour internationale de justice. Mais toute la deuxième partie de son discours, c'est... Et nous, là-dedans, on a des crises partout, dans les Grands Lacs, en Éthiopie, en Somalie. Et il termine par une phrase extraordinaire qui m'a frappé. Il dit, vous comprenez, depuis 3 ans, 93% des décisions que nous avons prises à la Commission de l'Union africaine ne sont pas appliquées. Donc là, il s'est servi, si vous voulez, d'un sommet, d'une grande conférence, et puis il a été extrêmement critique à l'égard du Sénégal, et je suis pratiquement sûr que ce message d'Addis Abeba en direction de Dakar a été entendu à Dakar, surtout si on prête à l'ancien président Macky Sall, d'ici quelques jours, des ambitions aux Nations Unies, ce que je souhaite personnellement pour lui-même.
Mais certains sommets sont utiles, personne ne le contredira.
S'il y a une vérité qui est dite.
Mais quand par exemple, Raoul Delcorte évoque une inflation des sommets, c'est un terme intéressant, vous déplorez une inflation des sommets ? Est-ce qu'il y en a plus en plus dans le monde ?
C'est-à-dire qu'il y a des sommets qui tuent les autres. Par exemple, aujourd'hui, il y a une concurrence entre le G20 et les BRIC. Les BRIC montent en puissance parce que c'est élargi. Sauf que le prochain sommet du BRIC, c'est en Russie, c'est à Kazan. Je ne sais pas qui va venir à Kazan. Et pour Lula, le G20 de Brésil, ça ne va pas être facile parce qu'il gère la concurrence des BRIC. L'OTAN a tué l'OSCE. Vous voyez ? Et ce qui manque le plus actuellement, c'est des réunions sur le thème de la sécurité collective. Il n'y a plus de lieu où on parle de sécurité collective actuellement en Europe.
La diplomatie des sommets est-elle utile ? C'est la question que nous posons ce soir dans le débat du jour et à la veille d'un sommet de l'Union européenne à Bruxelles qui aura lieu jeudi et vendredi. Mes 3 invités, Michel Fouché, que l'on entendait, géographe, ancien ambassadeur dans les Pays-Baltes, Charles Tenenbaum, maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Lille, chercheur au CERAPS, Université de Lille, spécialiste des questions de médiation internationale, et puis Raoul Delcorte, ambassadeur honoraire de Belgique, membre de l'Académie royale de Belgique, professeur de sciences politiques à l'Université de Louvain. Charles Tenenbaum, qu'est-ce qui ressort des sommets ? Parce qu'on a dit, il y en a quand même, je reprends cette expression, j'ai bien aimé l'inflation des sommets, a évoqué Raoul Delcorte. Est-ce qu'on peut affirmer qu'il y a un décalage malgré tout entre le nombre de sommets qui sont organisés ? Je disais, cette semaine, il y en a 3 dans le monde, des sommets importants. Le sommet pour la démocratie lundi, sommet sur l'énergie nucléaire demain, et puis le sommet de l'Union européenne demain et après-demain. Est-ce qu'il y a un décalage entre tous ces sommets et les décisions qui en découlent ?
On pourrait discuter longuement de l'impact effectivement des sommets, de ce qui en sort, et je pense qu'ensuite il faudrait faire des distinctions entre ces différents types de sommets. C'est pas du tout la même chose si on parle d'un sommet véritablement ad hoc pour la gestion de crise qui va permettre de dénouer une situation par la diplomatie, par la médiation, par du dialogue qui n'était pas possible et qui permet de faire.
On peut pas mettre tous les sommets dans le même.
Mais il y a d'abord et avant tout, je pense, une très forte portée symbolique. Les sommets dont il a été question. Il y a une portée symbolique, celle de la possibilité d'une réunion au plus haut niveau. Et au-delà des photos de familles qui ressortent de ces grands événements internationaux, il y a une forme d'affichage et en général des engagements, parfois des déclarations qui ont des portées internationales fortes. Il était tout à l'heure question des grandes conférences à la fin de la guerre froide. On a vu ici à d'autres moments des textes qui ont eu un véritable impact sur la scène internationale. internationale sortir de ces grandes conférences. Mais disons, je pense que la portée symbolique, la médiatisation de ces grandes rencontres, certaines plus que d'autres, effectivement, est essentielle à la bonne compréhension de ce que sont, de ce que cette diplomatie des sommets qui aujourd'hui, on parlait de l'Union africaine, on parlait des BRICS, évolue dans un univers assez concurrentiel, en fait, hein, qui voit coexister différentes tentatives de faire prédominer une forme de multilatéralisme sur un autre, ou des alliances multilatérales confrontées à d'autres, et qui recouvrent en cela une forme de géographie des conflits contemporains, finalement. On va tenter de renouer par des logiques multilatérales avec des alliances stratégiques traditionnelles, voilà, qui auraient évolué historiquement ou qui auraient pu prendre d'autres formes dans l'histoire.
C'est du soft power, finalement, ce qu'on appelle le soft power aujourd'hui.
Alors, c'est plus que le soft power. On a ici véritablement des stratégies diplomatiques qui recouvrent des objectifs de politique étrangère, parfois des objectifs stratégiques liés à des intérêts fondamentaux des États, qui vont au-delà, en tout cas, de ce qu'on entend plus généralement par la diplomatie d'influence.
Voilà. Raoul Delcort, vous qui êtes ambassadeur honoraire de Belgique, est-ce que vous pensez que, bah voilà, vous participez demain, par exemple, à un sommet, est-ce que vous pensez que l'ordre du jour devrait comporter davantage de décisions à acter ? Alors, Michel Fouché a cité la COP. C'est intéressant parce que rarement une COP n'aboutit sans accord.
Oui, mais ce dont mes deux collègues n'ont pas beaucoup parlé et qui explique l'accélération de la fréquence des sommets, c'est leur couverture médiatique. Et puisqu'on est sur RFI, on peut peut-être en dire un mot. C'est qu'il y a une véritable chorégraphie des sommets. Les dirigeants passent souvent autant de temps à parler à la presse qu'à leur père. La présence des médias, on le voit ici à Bruxelles, lors des conseils européens, est telle que les réunions ressemblent à la longue à des mises en scène, en fait.
Ouais. Mmh.
Et de sorte qu'on a pu dire que l'intrusion des médias dans chacune des phases de la négociation modifie l'esprit et la nature de la diplomatie. Mmh. Et l'attention des médias est en fait en porte-à-faux avec les exigences de base de la diplomatie, justement, qui appellent souvent la confidentialité, la discrétion, voire l'ambiguïté. Et ça, c'est quelque chose qui est incontournable, là. À la limite, les chefs d'État et de gouvernement cherchent l'attention des médias au cours des sommets. Il faut le voir à Bruxelles, c'est une chorégraphie extrêmement bien orchestrée. Ça change des sommets bilatéraux du temps de la guerre froide, évidemment.
Et c'est l'objectif des sommets aujourd'hui, assurer cette chorégraphie davantage qu'acter des décisions ?
Mais j'ai l'impression que, vous savez, comme on dit dans les festivals, parfois le off est plus intéressant que le in. Hein, et donc, les collègues parlaient de la diplomatie de connivence. Ce sont les manœuvres obliques dans les couloirs, lorsqu'on bâtit des coalitions avec les like-minded, comme on dit, qui sont de la vraie négociation diplomatique. Après, on se réunit au juste l'IPS, ici, au bâtiment de l'Union européenne, où se tiennent les conseils, et commence la grand-messe. Mais ce qui donne au sommet toute sa substance, au fond, c'est cette alchimie qui se construit dans les couloirs, à travers la négociation diplomatique, et je crois que mon collègue Fouché pourra le confirmer.
Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est ce qui se passe dans le in et à l'extérieur, finalement, c'est... Alors, photo, nous dit Charles Tellenbaum, médiatisation, nous dit Raoul Delcort.
M. Delcort a absolument raison, et d'ailleurs, une des difficultés, c'est de se mettre d'accord sur ce qu'on va dire après. Et vous savez, quelquefois, il y a des sommets qui se terminent sans conférence de presse, où il y a des absents. Et là, les journalistes, à juste titre, jugent qu'il y a eu un problème. Et donc, souvent... Il ne suffit pas de prendre des décisions. Il faut se mettre d'accord sur ce qu'on va dire ensuite. Bon, moi, j'ai des exemples comme ça. On a parlé de l'influence. Il y aura un sommet très important en France au mois d'octobre prochain, à Villers-Cotterêts. C'est le sommet de la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie. Celui de Djerba, il y a 2 ans, c'était pas très bien passé à cause de la situation politique tunisienne. On ne voulait pas donner quitus au président tunisien de ses dérives autoritaires. Là, la Cité internationale en française, un endroit tout à fait fabuleux qui vient d'ouvrir, va, au fond, permettre, pas seulement à la France, mais à tous les auditeurs africains, asiatiques, latino-américains de RFI, de découvrir une approche où le français est présenté comme une langue parmi les autres et une langue d'invention continue.
Mais ce sera une vitrine uniquement alors ?
Non, non, ce n'est pas une vitrine. Il y aura un vrai sommet parce qu'il y a des tas de décisions à prendre dans différents domaines, notamment en matière d'édition régionale ou locale pour briser le monopole des éditeurs français.
Mais ce qu'on va retenir, c'est les photos.
Non, pas du tout. Non, justement, là, il y aura des vraies décisions. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que nos amis cambodgiens sont candidats pour organiser le prochain sommet en 2026. Le tiers du gouvernement, nouveau gouvernement du Premier ministre Hun Manet, le tiers des ministres sont francophones. On n'en parle pas de ça. Je ne suis pas un intégriste de la francophonie, mais j'ai écrit un atlas des mondes francophones. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que là, il y a une spécificité française, canadienne,
mais vous éloignez, non ?
Suisse, belge.
Quel rapport avec, encore
le
une
rapport,
fois,
ce qui ressort directement dans le sommet ? Il y a un sommet qui est l'occasion, justement, de pointer quelques priorités. Et ce qu'on voit, ce qui manque pour faire vivre la francophonie, c'est la formation des professeurs, notamment en Afrique. La formation des professeurs. J'espère qu'il y aura des décisions dans ce domaine-là.
Charles Tannenbaum.
Alors, c'est vrai qu'il y a une production, disons, en termes de résultats politiques variables. Donc, pour autant, on ne peut ni véritablement la condamner complètement, ni véritablement considérer que c'est une forme de diplomatie qui produit régulièrement des résultats. Elle a été également critiquée pour ça. Mais la dimension médiatisée dont il était question à l'instant, parfois spectaculaire. Elle marque aussi des grandes rencontres, par exemple de négociations d'accords de paix qui sont la diplomatie de sommet, qui marque le jeu international, que ce soit les accords d'Abraham, par exemple, que ce soit y compris dans les rencontres au sommet entre des acteurs religieux de premier plan, les rencontres entre le pape François et le pape orthodoxe Kirill, par exemple, à Cuba. C'est des moments qui font partie de cette diplomatie des sommets, qui sont de nature différente et qui sont devenus, si ce n'est indispensable, en tout cas essentiels à la diplomatie contemporaine, tout en étant effectivement toujours critiqués. Et d'ailleurs, la période de la pandémie de Covid a créé un certain nombre d'obstacles à cette diplomatie des sommets. Tout d'un coup, il était beaucoup plus compliqué de se rencontrer en personne. Et la diplomatie des sommets est fondamentalement dans les possibilités qu'elle donne de lieu d'échange entre des individus sur des modalités parfois couvertes par le secret ou des modalités plus informelles, et bien fondamentalement contradictoire avec la diplomatie à distance, cette diplomatie via Zoom.
Par Zoom, on ne peut pas négocier à distance.
Donc même dans les temps de crise, parce qu'on a parlé du coût.
Il y a un effet collatéral du Covid, c'est la guerre.
Le coût des sommets.
Notamment en Russie. C'est un effet direct, un effet en tout cas collatéral. On ne se parle plus. Ça c'est une règle absolue.
Ça, c'est nécessaire. On peut préparer, aujourd'hui, à l'ère du numérique, on n'adapte pas les sommets.
On peut préparer par Zoom, mais il n'y a pas de télédiplomatie.
Oui, sans oublier que, comme le disait Michel Fouché et Roald Delcorde également, que par exemple, dans le cas des conseils européens, c'est en fait le produit, la rencontre des chefs d'État vient en fin de processus, après des travails quasi continus, quasi quotidiens, au niveau des appareils diplomatiques, au niveau des diplomates qui entretiennent des relations régulières sur des questions parfois très techniques avec leurs homologues des différents pays européens.
Il n'y a pas eu d'effet Covid dans l'Union européenne parce que les gens se connaissaient depuis longtemps. Ils se parlent toutes les semaines, tous, et il y avait de la confiance. Donc là, on a pu communiquer par écran interposé, si vous voulez, parce que il y avait de la confiance. Mais c'est une exception mondiale.
Mais en même temps, est-ce qu'on communique avec... Est-ce que des dirigeants très éloignés, alors c'est déjà la fin, sont invités au sommet? C'est rare. Il y a aussi le sommet... On a parlé du sommet des clubs.
Oui, non, mais là, je parlais de l'Union. L'exception européenne pendant le Covid, c'est qu'il y avait confiance entre les dirigeants et on a pris les bonnes décisions rapidement à cause de ça. Alors qu'ailleurs, la situation internationale s'est dégradée.
Voilà, la diplomatie des sommets n'est pas inutile, si je devais conclure. Merci beaucoup à vous trois. Michel Fouché, géographe, ancien ambassadeur dans les Pays-Baltes. Merci Charles Tannenbaum, maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Lille, chercheur au CERAPS, Université de Lille. Et merci Raoul Delcorte, qui était en ligne avec nous depuis Bruxelles, ambassadeur honoraire de Belgique, membre de l'Académie royale de Belgique. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat, à Arthur Bon à la réalisation, merci à la documentation des RFI et rendez-vous sur notre site internet pour réécouter, podcaster ce débat du jour.